Donc ça fait depuis octobre ou novembre qu'on a commencé à étudier ensemble cet évangile que Luc a écrit pour affermir ou conduire Théophile à la foi. Et au travers de ce récit, voilà, Luc nous parle de Jésus-Christ. Le but, c'est vraiment qu'on puisse comprendre qui il est, ce qu'il a fait et en quoi cela est important pour nous. Et depuis le début, Luc nous parle de Jésus comme étant, voilà, Dieu qui s'est incarné pour être ce nouvel Adam qui vient chercher justement les fils d'Adam qui sont tombés et pour les ramener à Dieu. Et je vous invite alors à ouvrir vos Bibles au chapitre 7. Et nous allons lire du verset 36 jusqu'au verset 3 du chapitre 8. Donc Luc 7, verset 36 jusqu'à 8, verset 3. Donc voilà ce que nous lisons. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même: Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: Celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit: Tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon: Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme: Tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais il dit à la femme: Ta foi t'a sauvée. Va en paix. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, et Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leur bien. Donc Luc continue à nous présenter ici Jésus-Christ et il nous parle en fait d'un événement qui est propre à lui. On ne le trouve pas dans les autres évangiles, ce récit de cette femme qui répand sur lui ce parfum. Et au travers de ce récit, en fait, Luc marque plusieurs contrastes entre ces deux personnages, entre d'un côté ce pharisien et de l'autre cette femme. Et effectivement, Luc prend le temps de nous décrire, de nous présenter cet homme. On apprend qu'il s'appelle Simon et il souligne très fortement que Simon est un pharisien. Il le répète à plusieurs moments, verset 36, c'est un des pharisiens et encore dans la maison du pharisien. Et encore au verset 37, il était dans la maison du pharisien. Et encore au verset 39, à cette vue, le pharisien. Donc, Luc insiste fortement que c'est un pharisien. Bon, la question qu'on se pose forcément, c'est quoi un pharisien ? Un pharisien, ou les pharisiens, en fait, c'est un groupe de religieux juifs qui était bien présent à l'époque, ce n'était pas le seul groupe, qui était très scrupuleux de l'observation en fait, de la loi de Dieu contenue dans l'Ancien Testament. Et tellement ils étaient scrupuleux, attachés à bien observer la loi pour ne pas l'enfreindre, pour ne pas vivre contre Dieu, qu'ils avaient rajouté tout un ensemble d'autres lois autour de ces lois pour ne pas transgresser ses propres lois. Pour prendre une image, si les lois de l'Ancien Testament étaient ce carré-là, ils avaient mis tout un ensemble d'autres lois autour pour ne pas aller jusqu'à l'encontre de ces premières lois. Ce qui fait qu'un pharisien observait dans sa vie, 613 lois. Un bon pharisien observait les 613 lois de son code. Et donc, nous sommes face à un super juif ici, n'est-ce pas ? Et où Luc prend ce temps, voilà, nous sommes face à Simon le super juif, qui est très certainement, à cause de cela, connu et reconnu dans la ville. Et de l'autre côté, grand contraste, on a une femme. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y a un grand contraste déjà entre hommes et femmes. Les femmes ne sont pas les mieux vues dans la société. Il y a cette terrible prière qui dit de l'époque, « Je te loue, Seigneur Dieu, de n'être pas païen, ni, je ne me souviens plus d'un autre, ni une femme. » D'accord ? Juste, c'est pas moi. C'est juste pour dire, à l'époque, à quel point il y avait un contraste, un statut différent. L'homme était élevé et la femme était malheureusement écrasée. D'accord ? Et donc, on a ce premier contraste-là. Mais autre contraste que Luc souligne, c'est qu'il prend le temps de nous dire qui est cette femme. Et tout ce qu'il nous dit, c'est qu'elle est une pécheresse. Et il insiste aussi dessus. Verset 37. « Et voici qu'une femme pécheresse. » pardon. Et également au verset 39. « Elle est une pécheresse dans la pensée de Simon. » Et Jésus confirme quelque part cela au verset 47, ses nombreux péchés sont pardonnés. On est face à une femme remplie de péchés. On a chanté tout à l'heure qu'il pardonne nos péchés. C'est quoi le péché au final ? C'est pas forcément un mot que vous lisez tous les jours dans le journal, n'est-ce pas ? C'est quoi le péché ? La question que je vous pose. Hein ? Vous parlez avec un ami qui lit la Bible, il va dire, c'est bien ta Bible, il y a écrit péché, c'est quoi ? Comment on définirait le péché ? Manquer la cible, exactement. Et ça veut dire quoi ? Ok. Mais la cible de Dieu, en fait, c'est la cible de Dieu. C'est manquer ce que Dieu a voulu, a désiré, a prescrit pour nous. Autrement dire, péché, c'est vivre ce qui est faux aux yeux de Dieu. C'est aller à l'encontre de Dieu. Et ici, Luc insiste pour nous dire, c'est une femme pécheresse. C'est pas qu'elle s'est plantée une fois, mais c'est une fille, une femme qui vit constamment dans le péché. Sa vie est marquée totalement dans le péché. Et c'est ça que Luc veut mettre en avant. Vous avez remarqué qu'on ne sait même pas comment elle s'appelle. C'est une illustre inconnue. Il prend de nous dire, le nom de cet homme, c'est Simon, c'est un pharisien, mais elle, c'est que pécheresse. Voilà comment elle s'appelle. Voilà comment elle est connue et reconnue dans sa ville. Donc, grand contraste entre nos deux personnages. Deux extrêmes sur les statuts sociaux. Homme, femme, super juif, super pécheresse. Et ces deux personnages que tout oppose vont se réunir, vont se retrouver ensemble autour de Jésus-Christ. Autour d'un repas, ce sera l'occasion pour parler de leurs sentiments intérieurs. Et c'est un deuxième fort contraste, un accueil que tout oppose. Cette femme, qui se sait connue pour sa vie de péché, de pécheresse, n'hésite pas, de manière assez étonnante, à entrer dans la maison du super juif, du super religieux, pour assister au repas. Alors, je ne sais pas comment vous réagirez, franchement. Il y a quelqu'un que vous n'avez pas invité qui rentre dans vos salons et qui est là en train de vous regarder manger. Vous diriez quoi ? Mais ça va ou bien ?
n'est-ce pas?
Mais c'était quelque chose qui était en fait assez commun à l'époque. Les repas n'étaient pas quelque chose de privé. Les personnes pouvaient entrer dans les maisons. Et les personnes qui étaient invitées pour le repas, par contre, il n'y a que eux qui mangeaient, hein, ils étaient allongés sur des divans, la tête, donc si la table, elle est là, là, ils étaient allongés dans ce sens-là, sur le coude gauche, pour manger avec la main droite, et la tête les uns autour des autres pour discuter, et les pieds derrière. C'est pour ça que cette femme a accès seulement aux pieds de Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Et ceux qui entrent dans la salle, en fait, ils sont contre les murs pour écouter seulement ce qui se dit. Parce qu'en fait, on profitait comme ça de l'enseignement, des débats, de ce qui était dit. Et donc, c'était là la place que cette femme pouvait avoir. Et pourtant, cette femme ici ne reste pas passive. Elle passe à l'action et elle s'approche de Jésus-Christ pour pleurer. Et là, vous imaginez le froid quand même. Vous êtes à table, en train de discuter tranquillement, en train de manger, et il y a une femme qui se lève et qui se met derrière vous et qui commence à pleurer. Et tellement elle pleure qu'elle vous mouille les pieds. Super l'ambiance, n'est-ce pas ? Surtout dans une maison de pharisiens, de super juifs, alors qu'on sait que cette femme est une pécheresse, n'est-ce pas ? Ça ne se fait pas, mais elle n'hésite pas à s'exposer, à pleurer, à s'humilier profondément au point d'essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux et à répandre du parfum. Le parfum, c'est pas comme notre parfum aujourd'hui, on peut la dénaire et l'acheter pour pas grand-chose. Le parfum à l'époque, c'est un produit de super luxe. D'accord ? Très peu de personnes pouvaient s'en acheter. Ça coûtait extrêmement cher. Et le fait qu'elle en verse sur Jésus et sur les pieds de Jésus, alors je ne reste pas là qu'on met du parfum, sauf que on a des gros problèmes, mais c'est une grande marque de respect et d'honneur pour Jésus-Christ. Pourquoi agit-elle ainsi ? Pourquoi elle ose s'avancer ? Pourquoi elle ose prendre des grands risques de s'exposer ainsi à la critique et à la vue de tout le monde ? Pourquoi tant d'abaissement ? Et assez étonnamment, Luc ne nous dit rien ici. Il la pousse et il va nous faire passer ici à Simon. Pour le moment, il ne nous dit rien, mais on regarde Simon. Et ce qui gêne Simon, au final, ce n'est pas que cette femme soit présente. Parce qu'effectivement, comme dit, ça se faisait. Il n'est pas gêné qu'elle soit présente dans sa maison, mais ce qui le choque profondément, c'est que Jésus-Christ se laisse toucher par cette femme. Et notamment avec cette appréhension de Jésus que tout le peuple appelle prophète. Et c'est pour ça qu'il dit dans sa tête, si cet homme était prophète, tout le monde l'appelle prophète, moi je l'invite, je veux voir ce qu'il est, ce qu'il a vraiment dans le ventre. Il se laisse toucher par cette femme. Si cet homme était vraiment prophète, il saurait qui est cette femme et il ne se laisserait pas toucher par elle. C'est une pécheresse. Il y a du grand mépris en Simon pour cette femme, pour une femme de péché et du mépris également pour Jésus-Christ. Parce que pour lui, il y a deux choses qui ne vont pas ensemble. On ne peut pas chercher à plaire à Dieu et côtoyer de si proche quelqu'un qui ne veut pas plaire à Dieu, qui s'oppose à Dieu dans sa vie concrète de tous les jours. Ces deux choses-là ne vont pas du tout ensemble. Et donc toute l'estime qu'il aurait pu avoir pour Jésus-Christ part. Et on voit ici que dans la vie de Simon, dans la pensée de Simon, il y a un grand fossé qui sépare l'humanité en deux. D'un côté, il y a les bons petits religieux, et de l'autre côté, les autres. Ceux qui ne cherchent pas, ceux qui ne veulent pas, ceux qui s'opposent même. Les justes et les injustes, ceux qui obéissent et ceux qui désobéissent. Ceux qui méritent la bénédiction et ceux qui méritent, de la part de Dieu, la colère de Dieu sur leur vie. Et lui, bien sûr, il est du bon côté. Lui, c'est le bon, c'est le bien religieux. Et donc, il n'a besoin de rien. Et là, je m'arrête pour poser cette question à nous. Quels sont les fossés qui existent dans notre vie, dans notre pensée, dans notre regard sur les autres personnes autour de nous ? Est-ce qu'il y a des fossés ? Est-ce qu'on aurait tendance à séparer aussi l'humanité en deux? Les chrétiens et les autres? Ceux qui vivent leur bonne vie disciplinée, qui vont bien à l'église, et ceux qui n'y viennent pas le dimanche matin parce que le samedi soir ils ont fait la fête? Et les fêtards? Ceux qui servent bien dans l'église et les autres? Ou pour prendre un thème plus actuel dans la société, les hétérosexuels et les homosexuels, etc. Avec une certaine fierté et une certaine suffisance aussi pour notre parti pris. Est-ce qu'on a tendance à séparer l'humanité en Dieu? Donc deux accueils ici très différents. Un accueil dans l'humilité, l'abaissement volontaire et l'honneur de la part de cette femme. Et un accueil hyper froid et hautain qui rejette Jésus-Christ par notre super religieux. Et troisième contraste, c'est une réponse bien différente au pardon que Dieu veut accorder. Jésus ici va révéler les motivations du cœur de Simon, notamment par cette parabole que je relis au verset 41. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. 500 deniers, c'est à peu près l'équivalent d'un an et demi de salaire, d'accord? Donc c'est quand même pas rien, hein? Et 50 deniers, c'est à peu près deux mois de salaire. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous deux, lequel l'aimera le plus. Et Jésus, au verset 47, nous donne un élément vraiment de compréhension de cette parabole. Verset 47, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Donc quelque part, ici, par cette parabole, Jésus compare Dieu à un créancier. Et il compare tous les hommes, absolument tous les hommes, à des débiteurs. On a une dette envers Dieu. Quel que soit le montant, on a tous une dette. Et cette dette, nous dit Jésus, c'est notre péché, notre faute, notre fait qu'on a raté la cible, qu'on a tapé à côté, qu'on n'a pas voulu être à l'écoute de Dieu, avec notre Créateur, qu'on n'a pas voulu suivre ses voies, on n'a pas voulu prendre compte de lui dans notre vie, on lui doit une dette. Et au travers de cela, Jésus nous rappelle que nous sommes tous responsables devant Dieu de notre manière de vivre. Nous avons tous des comptes à rendre à notre Créateur. Et même si on fait le bien par notre religiosité, ça ne suffit pas. Effectivement, c'est le point commun entre ces deux citations, c'est que même si c'est que 50 deniers, même si c'est que deux mois de salaire, et franchement ça peut être pas mal déjà, on ne peut pas rembourser. On n'arrive pas à rembourser. Et Dieu, notre créancier, sait qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas rembourser. Et Jésus est justement venu pour proposer la solution de Dieu. Annuler la dette, c'est ce qu'il nous dit ici, pardonner. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés sont pardonnés. Face à nos dettes qu'on ne peut pas, on a besoin de l'intervention extérieure. On a besoin que notre créancier annule la dette, qu'il soit d'accord de pardonner. Alors cette déclaration ici au verset 47 peut un peu nous poser problème par rapport à sa suite logique, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle est pardonnée parce qu'elle a aimé? Et c'est comme ça que le texte se lit. En tout cas, dans ma version, si vous avez la Semeur, par exemple, ça se dit un peu différemment. C'est-à-dire que, d'après ma version, ce serait « le pardon est l'œuvre qui permet... » Pardon, « le pardon est l'œuvre de son amour. Parce qu'elle aime, alors elle est pardonnée. » Est-ce que c'est ça que Dieu est en train de nous dire? Ou alors, est-ce qu'elle aime parce qu'elle a été pardonnée? Alors, soit on tire à pile ou face, soit on vote, soit on regarde le texte. Et il faut bien regarder que le verbe pardonner, en fait, est déjà au passé. C'est-à-dire que ses péchés ont déjà été pardonnés. C'est parce que maintenant elle aime, c'est parce que maintenant elle est venue pleurer, essuyer les pieds et verser du parfum qu'elle est maintenant, grâce à cela, pardonnée. Non, déjà avant, elle a été pardonnée. Autrement dit, il y a déjà eu une rencontre entre cette femme et Jésus-Christ. Luc ne l'a pas retracé, mais ils ont déjà dû se rencontrer pour qu'elle entende parler de Jésus-Christ, qu'elle entende son enseignement, qu'elle le voit à l'œuvre, et que touchée ainsi, et qu'elle puisse être pardonnée, et ainsi touchée par le pardon, elle vienne pour accomplir ce qu'elle vient de faire, ce que nous voulons de lire. De plus, Jésus, verset 50, dit à la femme, « C'est pas ton amour qui t'a sauvée ?» Au verset 50, il dit, « C'est ta foi qui t'a sauvée. » C'est parce que tu as fait quelque chose, mais c'est parce que tu as accepté quelque chose. C'est ta foi qui t'a sauvée. Et également, ce serait pas cohérent, si c'est l'amour qui conduit au pardon, ce serait pas du tout cohérent avec la parabole. La parabole nous dit, c'est le créancier qui prend les devants et qui annule. Et c'est ça qui entraîne l'amour. Donc rien que par rapport à notre texte, mais si on prend par rapport à l'ensemble de l'évangile de la Bible, c'est clair que l'amour n'est pas une œuvre pour gagner le pardon de Dieu. Mais l'amour est la conséquence du pardon que Dieu nous offre et qu'on accepte par la foi. Ça veut dire la foi en faisant confiance, en acceptant que ce que Dieu dit et fait est suffisant même pour moi et que je n'ai rien à faire, mais simplement accepter. Et cela, Jésus le fait voir aux pharisiens qui critiquent cette femme. Et il amène le pharisien, ici, après son discours, à regarder cette femme pour l'observer d'un autre point de vue. Le pharisien qui a pris cette femme et ce qu'elle a fait pour un acte détestable et méprisable, Jésus lui montre que c'est de la reconnaissance. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on marchait sur des chemins qui étaient sales. Ce n'était pas beau, propre, bien entretenu, balayé et goudronné, où c'est super moderne comme chez nous, n'est-ce pas ? Mais c'était des chemins naturels, pleins de poussière. Et en plus, sur ces chemins naturels, on marchait soit pieds nus, soit avec des sandales. Donc vous imaginez l'état de vos pieds quand vous arrivez à la maison, n'est-ce pas ? Donc il était de coutume, pas forcément à chaque fois, mais il était de coutume quand même, quand on rentrait à la maison, de se laver les pieds ou de proposer à notre invité de pouvoir se laver les pieds parce qu'il pouvait ainsi gagner du confort. Et juste petite parenthèse, c'était le dernier des derniers des derniers des esclaves qui faisait cela. Et ça prend la perspective quand on lit Jean 13, où c'est Jésus qui va laver les pieds à ses disciples. Il prend la place du dernier des esclaves. Et ce que fait cette femme également. Et après, on les essuyait. Et pour souhaiter la bienvenue aussi à notre invité, souvent on lui faisait un baiser de communion. Pour lui dire, sois le bienvenu, je suis content de t'accueillir chez moi, nous sommes bien ensemble, je t'accueille d'égal à égal quasiment. Et autre marque vraiment de grand respect, on pouvait verser de l'huile. Alors c'est vrai que pour nous, ça, c'est verser de l'huile sur la tête, quelle idée franchement. Mais voilà, c'était la coutume pour marquer l'honneur. Marquer l'honneur envers une personne. Et comble du grand honneur du parfum. Et quand on honorait encore plus une personne, c'est ce qu'on voit dans d'autres récits, on se jetait à ses pieds pour embrasser ses pieds. Ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel qu'elle a fait ici. Ça arrivait. Et Jésus ici reprend Simon en lui disant, « Tu m'as invité, Simon, mais tu ne m'as pas accueilli. Par contre, elle m'a accueilli avec honneur et respect. » Tu n'as montré aucun amour pour moi, Simon. Par contre, elle a démontré un grand amour. Pourquoi, Simon ? Pourquoi elle, cette femme de moins que rien, méprisable, que personne ne veut croiser, même pas toucher, elle est capable d'un si grand amour alors que toi, le religieux, qui suit les commandements, notamment qui nous apprend à nous aimer les uns les autres, tu n'es pas capable d'un grand amour. Pourquoi ? Et au travers de cette parabole, Jésus nous dit, parce qu'elle, elle a reconnu sa dette. Parce qu'elle a vu, elle, son incapacité à payer. Et elle a accepté le pardon. Mais toi, Simon, tu ne reconnais pas. Tu ne vois pas ta dette. Tu ne vois pas ton problème. Ton problème, en fait, Simon, en tant que religieux, c'est que tu penses que tu peux payer ta dette par ta religiosité. Mais par ta religiosité, tu t'éloignes de Dieu. Parce que cette dette n'est pas remboursable. Et le drame de notre pharisien ici, c'est qu'il n'accepte pas la grâce. Pour lui, la grâce, pardon, est un scandale. C'est un scandale que Dieu pardonne. C'est un scandale que Dieu ne punisse pas à la hauteur de ce que ça mérite le péché de cette femme. C'est un scandale que ce que je fais moi-même ne compte pas, n'est pas mis en valeur par Dieu. C'est un scandale, c'est pas normal. Et nous vivons pleinement là-dedans encore, n'est-ce pas ? Nous avons tellement tendance à cette pensée que je dois faire quelque chose pour mériter Dieu. Et tous, en tant que chrétiens, n'est-ce pas, nous sommes encore travaillés par cette pensée-là, n'est-ce pas ? Le nombre de fois où on se dit, parce que j'ai chanté, parce que j'ai prêché, parce que j'ai lu la Bible, parce que je suis allé à la réunion de prière, Dieu va plus m'aimer. Dieu va faire quelque chose pour moi. Mais ce texte nous rappelle, non, non, Dieu ne fait pas quelque chose pour nous parce que nous, nous avons fait. Mais il nous appelle à faire quelque chose pour lui, à l'aimer parce que lui a d'abord agi, parce que lui a d'abord pardonné, parce que lui a d'abord agi et a tendu sa main. Et il nous appelle à répondre, non pour gagner, mais par reconnaissance et par amour. Mais cette religiosité ici de notre Simon, malheureusement, elle est centrée sur lui. Il vit cette religiosité avec tous les principes que Dieu a voulu, mais pour son bénéfice à lui, pour s'en sortir tout seul, pour être meilleur que les autres. Et cette religiosité, comme dit, éloigne de Dieu aussi sûrement qu'une vie sans Dieu. En fait, cette religiosité est une vie sans Dieu. Et Dieu ici reprend Simon, Jésus reprend Simon ici pour cela. Et face à cela, il n'y a qu'une seule solution. Alors, verset 48, il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ce n'est pas ce que moi je peux faire, mais c'est que notre créancier nous fasse grâce de notre dette. Tes péchés sont pardonnés. Alors c'est clair, automatiquement, et heureusement qu'il y a cette réaction qui est saine, ici verset 49, ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ? Vous remarquez qu'il n'y a pas cette notion de blasphème comme avec l'homme paralytique, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de critique ou autre, mais juste cette pensée, qui est celui-ci ? Et Luc s'arrête, voilà, fin de l'histoire. À nous de réfléchir maintenant. Qui est celui-ci ? Qui est celui-ci ? Et Luc n'arrête pas de nous dire, depuis le début de son récit, qui est celui-ci ? Et il va nous dire, jusqu'à la fin de son récit, comment et pourquoi ? Depuis le début de son récit, il nous rappelle de nous dire que Jésus-Christ est le Dieu qui s'est fait homme. Jésus-Christ est l'offensé, le créancier à qui on doit une dette, l'offensé contre qui on s'est rebellé, l'offensé qu'on a rejeté, celui qui a parlé et on a dit « Tais-toi, ça ne m'intéresse pas, j'ai envie de faire ce que moi je veux. Je veux prendre ta place et je vais diriger moi-même ma vie, que ça te plaise ou pas. » C'est lui, l'offensé, qui vient se faire homme pour venir à notre rencontre et encore une fois, et de manière encore plus excellente, tendre sa main. Et dans toute la suite de son récit, Luc va nous dire ce que va faire cet offensé, ce que va faire notre créancier pour être juste quand il pardonne. C'est qu'il ne dit pas, allez, on fait comme si de rien n'était, on s'en fiche, mais dire, non, c'est grave, c'est grave. Et le péché, ses fautes, cette rébellion, ce rejet, ce mépris mérite la mort. Et c'est tellement grave que cette mort doit tomber. C'est tellement grave que ça, la juste peine doit être payée, tellement c'est grave. Mais c'est moi qui vais la porter. Mais c'est moi qui vais mourir pour vous. C'est moi le créancier qui vais payer la dette de vous, mes débiteurs. C'est moi l'offensé qui va payer pour vous, les offenseurs. Afin d'offrir de manière juste ce pardon. Et Luc insiste ici sur cette personne, sur ce caractère de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu qui pardonne. Jésus-Christ sauve du péché. Sauve de mon péché. Sauve de ton péché, de ta rébellion, de ma rébellion. Et là, j'aimerais conclure avec quelques questions de réflexion. Comment toi, tu réagis face à tes fautes ? Comment tu réagis face à ce que la Bible appelle le péché, c'est-à-dire de vivre sans Dieu, contre Dieu, en ignorant Dieu, en ignorant celui qui t'a créé, qui t'a donné la vie ? Quels sont tes sentiments, tes ressentis quand tu comprends, quand tu vois que tu as fait quelque chose de mal et de grave ? Comment on a tendance, comment l'être humain a tendance à réagir ? Il peut y avoir de la culpabilité et de la honte, n'est-ce pas ? C'est pas la même chose, hein ? On peut avoir de la culpabilité parce qu'on sait, oui, j'ai fait mal, je suis coupable. Et je le reconnais, j'ai une dette envers quelqu'un. Mais aussi, on peut avoir aussi ce sentiment de honte, n'est-ce pas ? Pas à cause de notre culpabilité, mais honte du regard des autres, n'est-ce pas ? Honte de ce qu'ils vont penser. Honte de la manière dont ils vont me regarder, comment ils vont m'évaluer maintenant. Il y a donc un certain malaise vis-à-vis des autres. Et à cause de cette honte, on a tendance à se cacher de différentes manières. Soit on va se séparer pour qu'ils ne me disent rien et qu'ils ne voient rien. Soit on n'en parle pas, on minimise, on fait comme si de rien n'était. Il y a des personnes qui sont très fortes, hein, face à un mal. Parle pas, c'est oublier, surtout ne rien dire. Parfois, on cherche à dominer la situation en écrasant par la parole, par l'action, pour que les autres n'aient rien à dire. Différents types de tactiques où on cherche à être le grand patron pour ne pas se sentir inférieur ou cacher cette honte dans une supériorité feinte, en tout cas. Mais remarquez dans votre texte comment la femme réagit. Dans sa culpabilité et sa honte, cette femme ose s'exposer. Elle ose reconnaître. Elle ose se mettre en avant. Non pas pour être reconnue comme une bonne, mais être reconnue comme une pécheresse. Elle ose exposer sa culpabilité et exposer sa honte, sans chercher à la cacher, à la minimiser ou à chercher à paraître pour quelqu'un d'autre. Et c'est quand elle a été honnête envers elle-même et honnête envers Dieu en exposant ce qu'elle est vraiment, qu'elle a trouvé là, auprès de Jésus-Christ, le pardon. Et non seulement elle a trouvé le pardon, mais regardez ce que Jésus-Christ lui dit en plus, verset 50, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Va en paix. Tu as trouvé le pardon, mais tu as trouvé la paix. Alors, pas la paix avec Simon, a priori, mais la paix avec Dieu. Et tu peux avoir la paix avec toi, parce que ta culpabilité, ta dette a été payée. Et tu peux être en paix maintenant. Arrêter de t'en vouloir, arrêter de te minimiser au regard des autres, mais accepter simplement qui tu es, ce que tu as été aussi, parce que Dieu t'a pardonné. Et tu n'as pas à faire croire autre chose. Et tu n'as pas à gagner ou à mériter ce que tu étais avant, à compenser plutôt ce que tu étais avant. Mais Dieu t'a pardonné avec ce que tu as été. N'aie pas honte. Va en paix. Et de la même manière, Jésus nous invite aujourd'hui à être honnête avec lui, à exposer notre culpabilité et notre honte, afin de le laisser les traiter, accorder son pardon et vivre sa paix. Deuxième question, comment on accueille les personnes autour de nous ? Est-ce qu'on a tendance à être comme ce pharisien ? Ne touchez pas, pas un péché, pas un pécheur, ne pas côtoyer les pécheurs. Alors attention à ce que je ne suis pas en train de dire. Hein. Je ne suis pas en train de dire de se mettre en situation de danger, ok ? Je ne suis pas en train de dire de se mettre en situation de tentation, parce que notre but c'est de témoigner à tout prix et de risquer de tomber, d'accord ? C'est pas ce que Jésus-Christ a fait ici, n'est-ce pas ? À chaque fois même qu'il a été voir les grands pécheurs de son époque, Il était avec ses disciples. Il s'est protégé. D'accord ? Donc je ne dis pas, n'allez pas dans vos lieux de tentation tout seul pour témoigner. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais, comment on accueille ? Comment on accueille ? Est-ce qu'on se laisse toucher ? Est-ce qu'on laisse, on ose aller à la rencontre ? Est-ce qu'on est prêt à prendre du temps pour côtoyer, pour connaître, afin de laisser la possibilité aux personnes qui ne connaissent pas Dieu encore, quel qu'il soit, quel que soit son style de vie, sa manière de vivre, d'être touché par Dieu et de pouvoir venir comme cette femme, reconnaître la grandeur de Jésus-Christ. Remarquons que Jésus s'est approché pour nous, là où nous étions. Et il nous appelle à le suivre. Encore une fois, ça ne veut pas dire ignorer le mal. Hein. Il le dit à cette femme, tes péchés sont pardonnés. Jésus reconnaît, oui, tu as péché. Mais ces péchés ne sont jamais trop grands pour ne pas être pardonnés. Et pour qu'on puisse ne pas les toucher, nous, de notre main, et leur témoigner de l'amour de Jésus-Christ. Et troisième question, qu'est-ce que le pardon de Jésus-Christ produit en nous ? Qu'est-ce que le pardon produit en nous ? Qu'est-ce que ça change dans notre vie ? Est-ce que ça change quelque chose ? Merci. Et ça doit encore changer des choses dans ma vie et dans ta vie. Et c'est pour ça qu'on est encore sur Terre, parce qu'on doit encore changer. Sinon, on serait déjà mort ou on serait au ciel. Mais tant que Dieu nous donne vie, il nous dit, mon ami, t'es pas encore au paradis, t'es pas encore parfait, tu dois encore changer. Et le moteur et la motivation pour changer, c'est pas ta discipline, c'est la grâce, c'est le pardon. Et c'est cette grâce et ce pardon qui va te conduire à la discipline. Mais c'est pas ta discipline qui va te conduire à la grâce et au pardon. N'est-ce pas ? Et c'est pour ça qu'on a la suite du récit. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leur bien. Jésus est intervenu dans la vie de toutes ces personnes-là. Qu'est-ce que ça a changé ? Elles ont changé d'orientation. Elles sont devenues ses disciples. Et elles l'ont suivi. Et ça s'est manifesté de manière concrète. Elles l'ont assisté dans sa mission. Et on a quelque chose d'assez extraordinaire ici. C'est le seul texte des évangiles qui nous parle des femmes qui suivaient Jésus-Christ. Dans les autres évangiles, c'est seulement à la fin de l'évangile. Et ici, Luc nous parle juste de cela. Juste après ce texte de la femme pécheresse. Ce n'est pas un événement isolé ce qui s'est passé là. Quand Jésus-Christ a touché une vie, ça a changé cette vie et ça a conduit à des conséquences pour les suivre. Et ici, Luc nous dit, il y en a eu d'autres. Et il doit y en avoir encore d'autres. Toi et moi. Qu'est-ce que le pardon change ? Et c'est cette invitation à la réflexion que j'aimerais te laisser encore. On l'a chanté tout à l'heure. Un des grands défis pour nous, n'est-ce pas ? Je ne sais plus mettre en commande et dit le texte. Tu m'as pardonné. Alors je pardonne en retour. Ça, c'est notre grand défi à tous. De tendre la main à notre offenseur pour créer une possibilité de pardon, de réconciliation. Si ça ne crée pas la réconciliation, au moins du pardon et de pouvoir continuer à avancer. Tu m'as pardonné, tu as pris le premier pas, tu as tendu en premier la main. Qu'est-ce que non seulement cet exemple, mais cette grâce, cette justice, cet amour manifesté pour moi change pour moi, aujourd'hui, dans mon travail, dans ma famille, dans mes relations et dans l'Église.